bride comme un cheval, comme un âne, ne sait pas la contrôler, alors sa foi, le mot utilisé, sa religion, on pourrait dire sa foi, son christianisme est sans valeur. L'usage de notre langue est crucial dans notre vie chrétienne. C'est un constat assez frappant. Combien d'entre nous avons dit des choses dans notre vie, peut-être dans la dernière semaine, que nous aurions aimé reprendre? Des choses qu'on a peut-être dit qui nous hantent encore, du mal qu'on a causé à nos bien-aimés, à des gens qu'on aime, des relations brisées, peut-être de certaines choses qu'on a dites. Et les proverbes en parlent dans Proverbes 21-23, dit ceci, « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. » Combien de choses on a pu dire? Ah! On aimerait pouvoir les ravaler. On aimerait pouvoir reculer le film et changer la pellicule pour que ce soit autre chose qui ait lieu dans la scène. Mais non, une fois que c'est dit, c'est trop tard. Merci Seigneur, par contre, qu'il y a le pardon, qu'il y a l'opportunité de demander pardon et de goûter à son pardon particulièrement. Mais avant de sauter dans les proverbes, je voulais lire ce passage dans l'Épître de Jacques. Je vous invite à tourner avec moi. Donc Jacques est un des derniers livres de la Bible. Le dernier, bien sûr, c'est Apocalypse. Ensuite, si vous reculez, il y a Jude, 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre et Jacques, qui se situe juste après l'Épître aux Hébreux. Jacques au chapitre 3, où il y a ce passage sur la langue. Jacques 3, je vais lire les versets 3 à 12. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, on va attendre, donc toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, comme on vient de le faire. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? La réponse implicite, c'est non. Il n'y a qu'une sorte d'eau qui sort d'une source. Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives? Non, un figuier produit des figues, il ne produit pas des olives. Ou une vigne, des figues? Non, une vigne produit des raisins, pas des figues. De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Bon, ce que Jacques nous dit avec ça, c'est de notre langue ne doivent pas sortir à la fois la bénédiction, les louanges à Dieu, et les malédictions, ou les critiques, les paroles dures, les paroles qui détruisent. Les proverbes aussi parlent beaucoup de la langue, parlent beaucoup de nos paroles. C'est essentiellement un livre où le père ou le maître apprend à ses enfants ou à ses élèves à écouter les paroles des sages et à apprendre. Donc, on peut écouter les paroles. De nos paroles peuvent sortir beaucoup de sagesse. Normalement, ce ne sera pas trop de notre parole, ça va être la parole des autres. Ou il y a beaucoup de sagesse à entendre de leurs paroles. Salomon dit 5, Proverbe 5, 7. « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. » Dans 22, 17, il dit « Tends l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma connaissance. En effet, il est bon que tu les gardes au fond de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, que la sagesse soit sur tes lèvres. » En regardant plusieurs de ces proverbes ce matin, j'ose espérer que nous gagnerons en habilité à nous servir de notre langue de moins en moins pour rabaisser et de mieux en mieux pour bénir Dieu et pour édifier. Alors, il y a trois points que je crois qu'ils ressortent des proverbes. On aurait pu en sortir d'autres, mais il y en a trois que je veux faire ressortir ce matin. C'est des choses qui sont des questions qu'on peut se poser lorsqu'on songe à nos interactions, lorsqu'on songe à quand on va avoir parlé, ou peut-être qu'on peut se poser avant de parler. Il y en a qui disent de faire sept fois le tour de la bouche avec... de faire sept fois le tour de la langue, de la bouche avec notre langue avant de parler. Ça nous donne quelques secondes peut-être pour décider si ce qu'on a le goût de dire, on va le dire ou pas. Mais la première de ces questions, donc c'est comme trois questions. La première, c'est « Est-ce que j'ai besoin de parler? » C'est savoir se taire. Benoît, on parle de parole aujourd'hui, mais tu nous parles de nous taire? Oui, je pense que c'est propice de se dire, si on veut parler de parole, c'est bien de parler aussi de silence, de savoir se taire. Parce que des fois, on est aussi bien de rien dire que si on n'a pas de bonnes choses à dire, alors on est aussi bien de rien dire. Alors la première chose, c'est est-ce que j'ai besoin de parler? La deuxième, c'est est-ce que c'est vrai? Les proverbes parlent d'une façon... dans un langage très noir et blanc entre la vérité et le mensonge. Et nous, peut-être qu'on voudrait rajouter, oui, il y a la vérité, il y a le mensonge, et bon, il y a les demi-vérités, il y a les entre-deux, etc. Mais pour les proverbes, il n'y a que la vérité, et toute la vérité, ou le mensonge. Et la troisième question, c'est est-ce que ça édifie? Est-ce qu'on utilise nos langues pour élever ou pour rabaisser? Et il y a de nombreux proverbes dans chacun de ces trois thèmes-là. On ne sera pas dans un texte particulier, je vais citer différents proverbes un peu partout. Je vais toujours donner la référence avant, donc le prochain que je vais dire, c'est Proverbes 10, 19. Le premier chiffre, 10, je fais allusion au chapitre, et 19, je fais allusion au verset. Vous pouvez les noter si c'est des passages qui vous touchent. Alors, avant de parler... on se pose la question, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que je ne suis pas mieux dans cette situation simplement de me la zipper, comme on dit en québécois, de se zipper les lèvres et de ne rien dire? Notre frère, pasteur René Frey, disait souvent, j'ai entendu celui pour la première fois, on a été créé avec deux oreilles et une bouche. Donc, pour écouter deux fois plus et deux fois mieux, qu'on parle. Alors, sachons écouter avant de parler, car parfois, on est mieux de ne simplement rien dire. Les proverbes, Proverbe 10, 19 dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Proverbe 17, 28 dit, « Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Encore 11, 12. « Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. » Dernièrement, 30, 32. « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. » Alors, si tu es, ça dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, donc si tu es en colère, si ton orgueil est froissé, que tu veux te défendre, que tu veux contre-attaquer, que tu veux te venger, que tu as des mauvaises pensées, comme ça dit dans 30-32, mets la main sur ta bouche. Ça peut aller jusqu'à le faire physiquement, tant que tu ne t'en sers pas comme une façon de faire savoir à l'autre ce que tu penses avec tes yeux, plutôt qu'avec ta bouche. On dit que la communication, c'est 10% les mots et 90% le ton et le non-verbal. Hein? Donc, tout ça, ça fait partie de notre parole. Alors, je pensais à ça, puis je me disais, « Ah, mais savoir se taire, est-ce que bouder, ça fait partie de ça? » Pense pas, hein? Bouder, on pourrait dire, « Ah, j'ai rien dit. Il n'a pas été gentil avec moi, ou il m'a fait une chose que je n'ai pas aimée, alors je me tais. Je vais lui faire le traitement du silence. Puis, il est mieux de savoir pourquoi je suis fâché, sinon gare à lui. » Les proverbes parlent beaucoup du fait de se reprendre. Ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, on va en parler la semaine prochaine. Savoir donner des conseils, savoir recevoir des conseils dans le contexte de nos relations. Mais le fait de bouder, de faire le traitement du silence, c'est une autre façon de se venger, d'isoler l'autre. Alors, les proverbes ne sont pas en train de dire « Pour être juste, si tu es victime d'une injustice, boude l'autre et le Seigneur va te bénir. » Ou bien... ce qu'on appelle aujourd'hui l'attitude passive-agressive. « T'es sûr que ça ne dérange pas que je sorte ce soir, que je te laisse toute seule? Fais ce que tu veux. » Alors, messieurs, si votre femme vous dit « Fais ce que tu veux », surtout, ne faites pas ce que vous voulez dans cette situation-là. Il faut lire le ton, mais si c'est un « Fais ce que tu veux », dans le sens « Je ne suis pas content », dans le fond, « Je ne veux pas que tu fasses ce que tu veux », alors n'écoute pas les paroles, mais écoute l'intention derrière les paroles. Qui te disent « Non, je suis fâché, je veux pas que tu sortes. On a un problème non réglé ou bien j'ai besoin de ton aide. Je me sens abandonné. » Mais souvent, avant de parler, une chose importante à savoir faire, c'est savoir se taire, savoir écouter. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Et comme on l'a dit, comme on l'a vu, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dans 13.3, ça dit « Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Encore 15.28 nous parle de réfléchir avant de parler. Donc, il est question, oui, de se taire, mais de réfléchir avant de parler. 15.28 dit « Le cœur du juste médite avant de répondre. » Tandis que la bouche des méchants déverse des méchancetés. Et comme je mentionnais la semaine passée, les proverbes, si on est honnête avec nous-mêmes, parfois vont nous dépeindre comme le méchant, ou comme le stupide, ou comme le fou. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir pour vrai et de dire « Ouf, à la lumière de la parole de Dieu, la façon que j'agis, la façon que je réagis, j'agis comme, dans le langage des proverbes, un fou, un stupide, un méchant. » Alors, mettons de côté un peu notre propre justice, soyons prêts à enlever un peu notre carapace qu'on « Non, non, moi je suis pas comme ça, non, moi je suis toujours un bon garçon, moi je suis jamais méchant, je prends toujours les bonnes décisions, je suis toujours très sage. » Alors, évidemment, si on le dit comme ça, on dit « Ben non, c'est pas vrai. » Mais dans le contexte des proverbes où tout est noir ou blanc, si on n'agit pas comme un sage, on agit comme un fou. Alors soyons prêts à être humbles et honnêtes avec nous-mêmes quand on lit les proverbes, de dire « Eh bien, j'agis comme un stupide, j'agis comme un fou, j'agis comme un méchant. Pardonne-moi, Seigneur, puis aide-moi à changer. » 17-27 dit aussi « Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme, à l'esprit calme, fait preuve d'intelligence. » Et à ce niveau-là, comme dans tous les niveaux, Jésus a été notre modèle. Jésus a été notre modèle parfait. Jésus-même, lorsqu'il était faussement accusé, lorsqu'on l'a traîné devant un tribunal, qu'on l'accusait de toutes sortes de fausses choses, Jésus ne s'est pas levé, ne s'est pas fait le grand défenseur de la justice, malgré qu'il aurait pu. Mais Jésus savait très bien qu'il subissait une injustice pour nous. qui méritions comme justice la colère de Dieu pour nos péchés. Mené à la croix, Jésus n'a pas cherché à se défendre. Jésus s'est tué, comme le prophète Isaïe dit, comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Les brebis qui sont inconscientes qu'elles vont vers leur propre mort et tout paisiblement sont amenées. Jésus n'a pas cherché à se défendre. Jésus s'est tué. Il a gardé le silence. Il a su qu'à ce moment-là, rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'était pas un moment pour parler. C'est un moment pour se taire. Et pour chacun d'entre nous qui avons déversé toutes sortes de méchancetés par nos paroles, si on place notre foi en Jésus, qu'on lui demande pardon pour nos péchés, ce ne sont plus nos méchancetés que Dieu voit en nous, mais il voit la parfaite justice de Christ. Toutes les saletés qui sont sorties de notre bouche et qui vont sortir de notre bouche encore ont été couvertes à la croix du calvaire. De sorte qu'on est maintenant lavé, que notre langue aussi a été lavée. Et Jésus nous appelle à sa suite, à l'imiter dans notre façon de se servir de notre langue. Notre deuxième point ce matin, c'est la question de la vérité. Est-ce que c'est vrai? La vérité, le mensonge et les entre-deux. Moi, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui ment. Je me dis, bon, je faisais ça quand j'étais enfant, un petit peu. Pas beaucoup. Mais je pense que si on se regarde à la lumière de la parole de Dieu, puis si on regarde un peu plus nos motifs, puis là, cette semaine, alors que je faisais cet examen, j'ai un peu hâte de voir de quelle façon je vais me comporter dans les prochaines semaines pour voir est-ce que je suis pleinement véridique dans ce que je dis. J'ai lu un article cette semaine du blog du Gospel Coalition de Ryan Reeves qui, l'article s'intitule « Why do we lie? » Pourquoi est-ce qu'on ment? Et il rapporte un article du National Geographic où une équipe de scientifiques a étudié les raisons pour lesquelles on ment. Alors, dans 8% des cas, ce sont des menteurs pathologiques ou malicieux, des gens qui ont, on pourrait presque dire qu'ils ont un sérieux problème avec le mensonge, c'en est maladif. Pour la majorité d'entre nous, je l'espère, on n'est pas dans cette catégorie-là. Bon, mais ça, 8% des mensonges. Il y a 2% des mensonges seulement qui sont catégorisés comme des mensonges sociaux ou polis. Donc, lorsque grand-maman arrive avec un chapeau, « Ah, comment tu trouves mon chapeau? Ah, il est très beau, grand-maman, ça te fait très bien. » Donc, mais si, ça pourrait lui faire très bien pour vrai, mais un exemple. Donc, on pourrait dire un mensonge poli. Ici, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, hein? À vous de déterminer comment vous allez patiner dans cette situation-là. Mais là, on a juste un 10% de tous les mensonges, toutes les raisons que les gens ont pour dire des mensonges, là. 15% qu'on pourrait inclure des choses comme l'humour, des illustrations pour raconter des histoires où on exagère un peu pour faire rire. Mais Ryan Reeves mentionnait que l'élément intéressant est que plus de 75% des raisons pour lesquelles on ment est pour nous protéger des conséquences de nos actions ou pour profiter de quelque chose. Et il mentionne les pourcentages. 14% des mensonges pour échapper aux gens qui veulent passer du temps avec nous en disant « Ah non, je suis occupé ce soir ». 22%, là ça s'en vient sérieux, 22% pour éviter d'être exposé pour nos transgressions personnelles. On ment pour cacher le mal. On sait qu'on a mal agi et là on couvre, on cache par des demi-vérités, par on ne dit pas toute la vérité ou bien carrément on va mentir. Donc 22% pour éviter d'être exposé par nos transgressions personnelles. Non, c'est pas moi qui ai mangé les bonbons. Peut-être, comme enfant, l'auteur disait que quand il était petit, il s'en était presque caricatural. Il avait volé tous les bonbons de la sacoche à sa mère et tout le monde savait qu'il aimait les bonbons et que c'est lui qui avait eu accès aux bonbons. Il disait « Non, j'ai pas volé les bonbons! » Puis il disait, tout le monde devait le voir dans ma face, comme d'enfant qui mentait. Mais ma mère a arrêté de mettre les bonbons dans sa sacoche à partir de ce moment-là. Donc, il faut croire qu'elle a vu la vérité. Donc, 16% maintenant des mensonges pour des avantages économiques, pour en avoir plus pour notre argent. On vend quelque chose plus cher que ça vaut, ou on triche sur le prix de l'achat, ou on en profite. Oh, il m'a laissé passer, il m'a pas facturé tel item. On en profite. Ben, c'est à lui de faire sa job. Hein? 15% pour des avantages personnels qui n'impliquent pas l'argent. Donc, attirer l'attention sur soi. Regardez-moi comment je suis bon, comment je suis important. Et 8% pour donner aux autres une bonne impression de nous-mêmes. 8% de nos mensonges pour nous donner une bonne impression de nous-mêmes. L'auteur mentionnait comme des photos sur Facebook ou Instagram de notre culte personnel. Alors, je prends une photo de ma Bible avec mon café, tellement bon temps avec le Seigneur. Oh, yes, que j'ai de l'air spirituel. Jésus ne disait pas de prier seul dans sa chambre, à l'abri des regards. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des gens se situent dans cette catégorie. C'est 75% de tous les mensonges qui sont dits, que c'est pour éviter des conséquences de nos actions ou pour profiter de quelqu'un ou de quelque chose. On pense qu'on ne fait pas partie de cette catégorie-là, mais la majorité des gens d'entre nous, on se situe dans cette catégorie-là. Ce qui est libérateur, par contre, c'est de savoir que l'Évangile nous libère pour avouer que nous sommes, nous aussi, pécheurs dans ce domaine, que nous sommes, nous aussi, menteurs, que nous aussi, nous cachons la vérité. Et merci, Seigneur, que Dieu nous accorde sa grâce en Jésus pour nous pardonner et nous transformer à son image. Mes amis, on est libre de pouvoir dire, nous aussi, que nous mentons ou que nous avons caché la vérité ou que nous avons camouflé. Le terme que les proverbes utilisent à ce niveau, c'est mentir. Dans quel genre de situation on pourrait faire ça? On veut impressionner les gens, on exagère nos accomplissements. Je suggère qu'on est dans la catégorie du mensonge. Ça peut être nos feuilles de temps au travail. C'est toujours à la lumière de ce qui nous favorise le plus. Quand on remplit nos impôts, j'ai dû faire probablement pas tant que ça, non, de revenus supplémentaires. Ou bien lorsqu'on raconte un conflit qu'on a eu avec quelqu'un, on embellit notre conflit à notre avantage pour que vraiment la plus grosse part de responsabilité retombe sur l'autre. Il m'a dit ci, il m'a dit ça, et moi, j'ai rien fait de tel. Presque. Cette fois-ci. Comme vendeur, peut-être, on vend quelque chose plus cher que ça vaut pour profiter de l'ignorance des gens et faire quelques dollars de plus. On se dit, c'est à eux de se renseigner. Comme acheteur, on arrondit l'âge de nos enfants à notre avantage pour économiser de l'argent au restaurant. Alors ça, c'est un prix pour les 7 ans et moins. Quel âge a votre enfant? Ou c'est comme quel âge a votre enfant? C'est à partir de quel âge qu'ils ont pu le rabais? Alors, je doute que Jésus aurait fait la même chose. Hein? On transforme l'histoire pour éviter de se faire punir. Alors, les enfants, c'est lui qui a commencé. Lui, il m'a frappé plus fort. Lui, ensuite, il m'a fait ça. OK, toi, qu'est-ce que tu as fait? Mes parents nous faisaient ça. Dès qu'un de nous venait courir, « Papa, François, il m'a frappé. » OK. Qu'est-ce que tu as fait à François? Il devait avoir un sixième sens, mes parents. Ils savaient que j'étais jamais parfaitement innocent. L'auteur Ryan Reeves mentionne parfois qu'on ose mentir à nos enfants parce que c'est plus pratique de leur faire des menaces qu'on sait qu'on ne va pas amener à exécution. « Ah non, fais pas ça. Non, on va pas là. Il y a telle chose. Non, il y a des méchants là. » Ou « Non, tu vas partir le système d'alarme. » Ou « On s'évite du trouble en disant des mensonges à nos enfants. Ou bien lorsqu'on confesse nos péchés ou nos torts, on confesse la partie la moins pire ou celle pour laquelle on s'est fait prendre seulement ou pas tout au complet, de peur que les gens soient conscients à quel point on est des pécheurs. Et on aimait le reste. Ce qui nous libère, frères et sœurs, de l'Évangile, c'est qu'il n'y a aucun de nos mensonges, il n'y a aucune de nos tromperies, il n'y a aucune des choses qu'on a dites, qu'on n'aurait pas dû dire, des vérités qu'on a cachées, qui ne sont pas couvertes par le sang de Jésus à la croix. Tout ce dont on a honte, tout ce qu'on aimerait avoir repris, tout ce pourquoi on ne veut pas se faire prendre, ça a tout été couvert à la croix par Jésus. Et on a une liberté d'amener notre vie à la lumière, de l'amener à la lumière de Dieu, de ne pas chercher à le cacher par le mensonge, par les tromperies, par le couvert. Lorsque les gens vont à la cour de justice, ils s'engagent à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Oh, comme c'est facile de laisser de côté ce qui ne nous avantage pas. Pourtant, je pense que dans le monde des proverbes, on est appelé à faire ça. La vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. J'aimerais citer maintenant plusieurs des passages des proverbes qui parlent de ça, la vérité et du mensonge. Dans 4:24, Salomon dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » On tourne autour de ce qu'on ne veut pas qu'il soit. Écarte ça de ta bouche, éloigne de tes lèvres les détours. Dieu est assez cru lorsqu'il nous dit ce qu'il pense du mensonge. 6:17-19, Salomon dit, « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a en horreur. » Et les numéros 2 et 6 ont rapport au mensonge. Numéro 2, c'est la langue menteuse. Et numéro 6, le faux témoin qui dit des mensonges. Ça dit que l'Éternel déteste cela et en a en horreur. 12:22 encore, les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel. Tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. On voit que le mensonge ne convient pas à un enfant de Dieu. 17:7 dit, si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les paroles mensongères conviennent d'autant moins à un noble. Comme enfant de Dieu, on n'est certainement pas moins que des nobles à ses yeux. Pas qu'on le mérite, mais que lui nous en a fait de nous des nobles dans sa cour royale, mais les paroles mensongères ne nous conviennent plus. Les proverbes sont assez crus quand ils parlent des conséquences de la vérité, des conséquences du mensonge. Il y a beaucoup de proverbes qui mentionnent cela. 12:19 dit, « La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours. » Tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. 14:22 Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? La bonté et la vérité sont la part de ceux qui méditent le bien. 19:5 Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la sanction. 27. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est comme remplie de gravier. Ce qui commence par un pain doux, oh, je me suis sorti de cette situation-là, j'ai réussi à m'en sortir, assez d'huile pour glisser hors de la situation. Ce qui me semblait bien doux est maintenant rendu comme manger du gravier ou comme manger du sable, si vous avez déjà mangé quelque chose qui avait du sable dedans. Ça s'avale mal. C'est pas plaisant. Les proverbes parlent des 21-28 aussi. Le témoin menteur va à sa perte. Mais l'homme qui sait écouter pourra parler indéfiniment. Quelques conséquences de la vérité et du mensonge. 14:25 dit « Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais le trompeur ne peut que dire des mensonges. » 25:18 « Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. » Il m'a fait ci, il m'a fait ça, on exagère un peu, on diminue un peu notre responsabilité. On est rendu dans le faux témoignage, je pense. C'est comme aussi dangereux, aussi dévastateur que des armes de guerre. Il y a quelques prières, il y a deux prières maintenant pour que l'auteur du livre des Proverbes, les auteurs des Proverbes mentionnent que je veux nous approprier alors qu'on cherche à être des gens qui sont connus de Dieu par le fait de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Proverbe 3:3 dit « Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » 30:7-8 ça, c'est Lemuel, non, Agur, qui dit ceci. Il demande deux choses à l'Éternel. La deuxième, elle va être couverte par Mario. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Mais la première, il dit « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. » Quelle belle prière, hein? « Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. » Dans Proverbe 8, on voit un personnage, c'est la sagesse qui est personnifiée. Elle est comme une dame qui se tient au coin de la rue, aux portes de la ville. À cette époque-là, c'est aux portes de la ville qu'il y avait des messages. Donc, on n'avait pas de publicité à la télé ou à la radio pour les messages du gouvernement ou sur les réseaux sociaux. Non, c'était des crieurs aux portes de la ville qui criaient les messages. Et c'est là que les gens aussi faisaient les échanges commerciaux. Et Dame Sagesse est là, est à la porte de la ville, et elle dit « Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. » Ayons de telles lèvres, ayons de telles bouches, de telles paroles. Sachant que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il était la vérité et que la vérité nous rendrait libres. Le mensonge, la malhonnêteté, le faux témoignage, chercher à se cacher, toutes ces choses sont le contraire de la nature même de Jésus-Christ, celui qui habite en nous par son esprit. Comment d'une source où Jésus est maître, pourrait-elle sortir à la fois la vérité et le mensonge? Dieu est lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde qui vient éclairer les ténèbres, tandis que le mensonge cherche à camoufler, à cacher dans les ténèbres. La vérité de Dieu vient éclairer, que c'est pas beau dans ce coin-là, que ça a besoin d'un sérieux ménage, qu'il y a des choses qui pourrissent. Mais une fois qu'on l'éclaire, on peut le nettoyer. Tant que ça reste caché, l'odeur reste. Même si on veut le cacher des yeux, l'odeur va persister. Jésus est mort et ressuscité pour nous mener du mensonge du péché à la vérité et nous mener à l'essence la plus pure de la vérité, nous mener à lui-même. Marchons dans ce que Jésus est, marchons dans la vérité. Alors, on arrive à notre troisième point. Le premier, c'était est-ce bien de parler? Est-ce que je ne suis pas mieux de me taire? Donc, le silence. Le deuxième, la vérité et le mensonge. Et troisième, est-ce que ça élève ou ça rabaisse? Est-ce que j'édifie ou je détruis avec mes paroles? Les proverbes nous disent que bien parler, c'est quelque chose de très précieux. Et il y a toutes sortes de comparaisons. La langue du juste est un argent affiné. Mais le cœur des méchants ne vaut pas grand-chose. 20:15 dit, « Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance. » Qu'en est-il des lèvres qui parlent mal, qui détruisent? Eh bien, c'est comme dans 26:23 nous dit, « De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. » Une tromperie, l'hypocrisie. C'est comme un vase de terre sur lequel on a plaqué de l'argent. Ça ne va pas tenir, dans le fond. C'est de l'argent non purifié, donc il n'est même pas beau, l'argent. Puis l'argent, il ne va pas tenir sur le vase de terre. C'est inutile. Des bonnes paroles avec un cœur mauvais, avec un cœur traître, c'est comme inutile. Les proverbes nous disent comment Dieu voit des lèvres qui élèvent au lieu de détruire. 15:26, les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. 16:13, les rois sont favorables aux lèvres justes et ils aiment celui qui parle avec droiture. 22:11, celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Alors, on voit qu'est-ce que Dieu en pense des lèvres dont on sert pour dire le bien. Est-ce que ça édifie ou est-ce que ça rabaisse? Est-ce qu'on critique ou on encourage? À deux endroits, dans 18:8 et dans 26:22, les auteurs des Proverbes comparent les paroles du critiqueur à des friandises. On a exactement le même verset, c'est le même proverbe mot pour mot. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Ah, quand on critique, que ça fait plaisir! Et comme c'est contagieux. Lorsque j'étudiais une des écoles où j'ai été, c'était pas une école chrétienne, là. C'était pas quand j'étais au séminaire, mais une des écoles où j'ai été, il y avait un genre d'attitude répandue parmi tous les élèves les plus vieux de critique. De tout ce que les profs faisaient, c'était jamais assez bon. Il y en avait toujours des meilleurs profs ailleurs et on comparait toujours les faiblesses d'un prof, évidemment, avec les forces d'un autre. Mais on avait toujours plein de bonnes raisons. Oh, puis on en avait des listes. On en avait des listes de raisons pour critiquer nos profs. Il y avait certains problèmes. Puis, probablement que la direction ne les gérait pas de la meilleure façon. Cependant, je sais que la façon que j'ai pas gardé mon cœur pendant ce temps-là, mais que je me suis laissé emporter dans ce tourbillon de critiques, j'y ai moi-même beaucoup participé. Parler dans le dos de tel prof, parler, surtout un prof en particulier. Puis, j'avais un frère dans la foi, un bon ami qui étudiait aussi à l'école, on avait un projet de faire un genre de moyen de pression, puis qui m'a demandé de me rencontrer. J'étais président de l'association étudiante, puis il m'a dit, « Ouais, tu sais, je suis pas tellement à l'aise avec ça. Je pense qu'on pourrait peut-être faire tel autre truc. » Puis, je suis vraiment content que le Seigneur l'ait placé à cet endroit-là dans ma vie, à ce moment-là. Je pense qu'il m'a empêché de jeter encore plus d'huile sur le feu de la critique qu'il y avait. « Ah, mais que c'était bon, on se rassemblait, les étudiants, de critiquer telle chose. Ah, ouais. Non, il faudrait vraiment qu'il s'en aille. Il n'est vraiment pas à sa place. » Je ne dis pas qu'il y a des raisons légitimes dans certains cas, qu'il pourrait avoir des agressions, qu'il pourrait avoir de l'abus, dans un milieu de travail, dans un milieu scolaire, où ces choses-là doivent être apportées. Mais des faiblesses, on a tous nos faiblesses. Il n'y a personne d'entre nous qui est parfait. On n'a pas été à la meilleure école dans tous les domaines. Alors, mettons de côté les bonbons de la critique. Ils nous font très plaisir, mais ils ne produisent pas la vie, au contraire. Et souvent, lorsqu'on critique, ça peut être un témoignage de notre propre insécurité, de notre propre sentiment d'infériorité ou d'insignifiance. On aime beaucoup prendre les gens bien connus, on sort la nouvelle gaffe qu'ils ont faite, et là, on les jette en bas de leur piédestal. Comme on dit, on aime bien monter les gens pour ensuite les jeter en bas du piédestal. C'est comme un sport national. On élève la nouvelle vedette, puis une fois qu'on est rendu tanné, on cherche, OK, qu'est-ce qu'on peut critiquer? De quelle façon est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de mauvais à dire de cette personne-là pour la jeter en bas du piédestal? Et comme d'une façon pernicieuse, on se sent plus important, on se sent meilleur en rabaissant les autres. Personnellement, moi, quand je sais que je suis dans un environnement où je ne vais pas blesser qui que ce soit, je pourrais dire quelque chose, il n'y a personne qui va être choqué, quand je me sens en confiance, alors c'est dans ces situations-là où j'ai plus tendance à dire des choses un peu désobligeantes envers quelqu'un d'autre. Quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, un politicien, un acteur, quelqu'un d'autre de connu. Voici la question qui tue. Est-ce que je leur dirais directement? Lorsqu'on se pose la question, est-ce que j'élève ou je rabaisse? Si je m'apprête à dire quelque chose à propos de quelqu'un, est-ce que je leur dirais ça de cette façon-là? Non, bien sûr, là, je mettrais 3 fois plus de Nutella par-dessus pour que ça passe bien, là. Mais peut-être lorsque je parle de cette personne-là aussi, dans une situation de confiance, je peux le faire. Peut-être il y a un élément à discuter qui est à améliorer, mais souligner les forces, souligner les bonnes choses. De la même façon que je voudrais si quelqu'un avait des choses à me reprocher, et la liste serait longue. Alors, de la même façon, à la manière que j'aimerais que les autres me critiquent, je veux critiquer les autres. Alors, avant de parler de quelqu'un, surtout quand la personne n'est pas là, est-ce que je lui parlerais directement comme ça? Au lieu de passer un message, on commence à raconter. Il y en a qui disent que un de nos sports préférés à l'Église, c'est le commérage. C'est de se parler dans le dos les uns des autres. Mais merci Seigneur, je ne sens pas ce genre de culture-là dans notre Église. Et je suis reconnaissant pour ça. Je suis reconnaissant. Mais il y a des églises où c'est difficile, c'est là depuis longtemps, c'est un peu la façon de faire. On dit qu'on partage des requêtes de prière, mais dans le fond, on veut tous les détails juteux de ce qui se passe de la situation. Et je ne suis pas allergique à ça, moi non plus, de vouloir en connaître plus que j'ai besoin de connaître. Parce que c'est intéressant. Jean 4, 11 dit très directement, « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. » C'est si simple. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Le prédicateur bien connu Charles Swindoll suggérait, lorsque quelqu'un l'appelait pour lui dire « Ah oui, j'aimerais te parler de telle et telle personne », avant même d'entendre la personne expliquer, il disait « Est-ce que je peux te citer là-dessus? » Non, mais ça serait peut-être pas une bonne idée parce que, alors si tu n'es pas prêt à ce que ton nom soit attaché à ce que tu vas dire, si j'étais pour aller confronter la personne, alors je suis mieux de ne pas le savoir. Ou peut-être que tu peux aller lui en parler d'abord, avant de m'en parler à moi. Parce que des fois, on dit, on veut éviter nous-mêmes de parler dans le dos des autres, mais quand les autres le font avec nous, de quelle façon est-ce qu'on peut un peu changer le ton, on peut dire, on veut souligner les aspects positifs de la personne, mais peut-être que ça, c'est une façon. Est-ce que je peux te citer là-dessus? Est-ce que je peux aller lui dire après? Peut-être qu'on peut parler d'autre chose. 18:21, la langue a pouvoir de vie et de mort. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. 12, 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Est-ce que nos lèvres, on va s'en servir pour élever ou pour rabaisser? Proverbe 15:4, une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Parler en mal, se servir de notre langue pour détruire, va nous amener à notre propre perte. 18:7 dit, « La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. » À l'inverse, servons-nous de nos paroles pour édifier, pour élever, pour apporter la vie, pour encourager. Proverbe 16:24, « Les paroles agréables sont un rayon de miel. » Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. 25:11 dit, « Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. » Quelque chose de précieux, quelque chose de magnifique. Voilà ce que sont des paroles dites à propos. Dit, « Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par manque de bon sens. » J'aimerais vous laisser avec un dernier proverbe, qui est un que ma mère, je mentionnais mercredi à la réunion de prière, que ma mère nous a cité si souvent en tant qu'enfant. « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère, excite la colère. » On va parler de relations la semaine prochaine. On va parler de colère, on va parler de conflit. Peut-être un petit avant-goût. Possiblement un des plus grands joyaux par rapport à notre bouche, par rapport à nos paroles. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Ma mère nous partageait que dans sa maison, elle n'a pas grandi dans une famille chrétienne. Souvent, on réglait les conflits en se criant après. Donc, on élevait le ton. Ben, je dis on réglait les conflits, on ne les réglait pas vraiment, mais... peut-être que c'est comme ça qu'on interagissait en temps de conflit. On élevait la voix et un parle un peu plus fort. « OK, non. Ouais, mais toi... » Puis là, pour être sûr d'être entendu, on monte le ton. Puis elle avait tendance à interagir comme ça avec son père. Puis, lorsqu'elle est venue au Seigneur, elle avait 17 ans à peu près. Puis, le Seigneur a fait une œuvre de transformation dans son cœur. Puis, ce verset-là, ça l'avait vraiment frappé, puis elle l'avait pris au sérieux. Puis, une prochaine fois qu'elle avait eu une conversation avec son père, où son père avait élevé le ton, et toutes les autres fois dans sa vie avant, ce qu'elle faisait, c'était élever le ton d'une coche de plus. Mais cette fois-là, elle a redescendu. Elle a parlé doucement. Et peut-être à sa grande surprise, son père aussi a reparlé doucement. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure va exciter la colère. Conclusion, est-ce que j'ai besoin de parler? C'est plus un résumé. Est-ce que je ne suis pas mieux de me taire? Parfois. Si on parle beaucoup, on ne manque pas de péché. Et parfois, on est mieux de se taire. Deuxièmement, est-ce que c'est vrai ce que je m'apprête à dire? Est-ce que c'est toute la vérité ou je cache une partie? Et aussi, je ne sais pas si c'est vrai. Je m'apprête à dire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. OK, alors je ne vais pas le dire. Je vais m'abstenir. Je vais aller me renseigner pour voir si c'est vraiment la vérité. Troisièmement, on a vu, est-ce que mes paroles vont être là pour édifier ou pour abaisser? La langue est un petit membre. Quelques muscles, probablement le membre le plus puissant de notre corps. Sachant l'abandonner au Seigneur. Sachant que ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe, oui, ça va se passer dans notre cœur, notre cerveau. Mais que Sachons utiliser nos langues pour donner la vie, pour transmettre la vérité, pour transmettre la sagesse, non pas pour abaisser. Et comme les proverbes ne nous le cachent pas, nous amener nous et les gens à qui on pourrait s'adresser à la mort et à la perte. Prions. Seigneur, tu dis ta parole, dans ta parole, au Proverbe 15, que celui qui marche dans l'intégrité, il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. S'il fait un serment, il ne se rétracte pas. Il est fidèle à sa parole. Tu nous dis, Seigneur, celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Merci de ce que rien de ce qui peut être révélé à propos de nos péchés n'est pas couvert par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. On veut te demander de nous aider, Seigneur, à nous servir de nos lèvres pour donner la vie et non pas pour amener la pourriture et la mort. Pardonne-nous les péchés de nos lèvres, Seigneur, les nombreux péchés de nos lèvres. Enseigne-nous dans tes voies, Seigneur. Transforme nos cœurs et on prie que tu puisses nous purifier, Seigneur. Nos cœurs, nos bouches, nos corps, pour qu'on puisse te glorifier en toutes choses. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen.
Donc, merci Benoît pour la prédication. Le prochain chant, quand j'ai su que ça allait être justement sur la langue, j'ai pensé que ça allait être à propos qu'on puisse chanter Feu du Fondeur. Je pense que tout le monde, incluant moi évidemment, on doit être transformé par Dieu par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui peut facilement nous enflammer. Donc, chantons un feu du fondeur. Demandons à Dieu de nous purifier. Vous pouvez vous lever.
Purifie mon cœur. Si pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Saint. toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir.
Donc, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis c'est ça, dans le fond. Passez une excellente semaine.